France Inter, le 18-20.
À Paris, sur les voies sur berge, désormais, on fait du vélo paisiblement en famille et c'est presque une autoroute qui contourne une partie de la ville. À Paris, désormais, on est coincé dans des embouteillages gigantesques, agglutinés, moteurs allumés sur la gauche de la chaussée pendant que deux vélos se battent en duel de l'autre côté. À Paris, grâce aux nouveaux moyens de mobilité, les trottinettes sont les dernières en date, on circule différemment et tous les choix sont là. Trottinettes, donc scooters électriques, Vélib aussi. À Paris, c'est cette année, trottinettes, elles sont partout sur le trottoir, les scooters rangés n'importe comment et les Vélib ne marchent toujours pas. À Paris, les stations de métro traversent la ville et permettent de se passer d'une voiture aisément. À Paris, les métros sont bondés, les incidents légion, les retards constants. À Paris, il fait bon vivre le soir aux terrasses. À Paris, la ville est sale et même, il y a des rats. Les Jeux Olympiques, on n'en veut pas, puis finalement, on en veut. Les magasins ouverts le dimanche, c'est non. Mais finalement, c'est oui. Bref, Paris, je t'aime et je te déteste. Tout le monde a un avis tranché sur la capitale et pas seulement les Parisiens. D'ailleurs, c'est une ville éminemment politique, une maire éminemment politique aussi, évidemment, une bataille qui s'annonce pour son contrôle éminemment politique. Et puis quand on parle mobilité, pollution, voiture, diesel, essence, évidemment, on ne parle pas que de Paris. Anne Hidalgo est avec nous ce soir dans le téléphone sonne et c'est le vôtre, profitez-en.
Fabienne Sintès. Le téléphone sonne.
Olivier, bonsoir, c'est vous l'entrée en matière, soyez le bienvenu.
Bonsoir.
Ah, voilà Olivier qui est en voiture, ça démarre parfaitement bien le téléphone
oui.
sonne. Bonsoir,
bonsoir
Olivier.
Bonsoir Notre-Dame de Paris. Je voulais témoigner que depuis que vous avez fermé les voies sur berge, personnellement, je mets une heure de plus aller et retour pour rejoindre mon domicile. Donc je voulais savoir quel bilan écologique vous tiriez de ça par rapport aux 16 millions de banlieusards qui essayent de rentrer chez eux le soir.
Alors on va vous c'est une entrée en matière,
oui,
Olivier.
Très alors, belle, merci pour cette entrée en matière.
Une seconde, Anne Hidalgo. Vous habitez où, Olivier ?
J'habite à Sainte-Geneviève-des-Bois et je travaille au Bourget.
D'accord.
Et vous passez par Paris ?
Oui, parce que j'ai une voiture de fonction, donc je suis un peu obligé de prendre la voiture.
Mais vous traversez Paris en voiture pour faire Sainte-Geneviève-des-Bois, le Bourget ?
Oui, tout à fait.
Il y a peut-être d'autres itinéraires qu'on veut vous proposer, hein, qui sont plus... voilà, mais en itinéraire de délestage. Mais je veux répondre, enfin, si je peux
répondre. Mais bien sûr, allez-y.
Merci,
et bonsoir, Anne Hidalgo, d'ailleurs.
D'abord, tout ça doit avoir quand même un sens. Hein. Paris est une ville qui souffre de la pollution, il y a trop de mortalité, il y a des enfants qui, dès qu'ils naissent, sont concernés par l'asthme et un certain nombre de maladies respiratoires. Ce n'est pas un phénomène que à Paris, la question de la pollution de l'air est une cause internationale sur laquelle beaucoup de médecins, l'Organisation mondiale de la santé, beaucoup de villes, toutes les villes du monde avec les et même en France, les villes de France sont toutes en train d'essayer de travailler pour diminuer justement la pollution atmosphérique. Et dans une ville comme Paris, l'essentiel de la pollution, c'est bien sûr lié au trafic automobile. Alors, ce que je fais depuis 2014, depuis que je suis maire, mais en fait ce que mon prédécesseur aussi Bertrand Delanoë avait engagé dès 2001, puisque la campagne municipale de 2001, nos listes s'appelaient « Changeons d'air hein, ». Et déjà la question de la pollution était posée. C'est d'essayer d'élargir les possibilités de ne pas prendre sa voiture personnelle, mais d'avoir d'autres modes de transport pour pouvoir aller de son domicile à son travail. On a un réseau de métro qui est dense mais bondé, on peut y revenir. Mmh. On a beaucoup de possibilités alternatives, elles ne sont pas forcément, elles ne correspondent pas forcément à ce que chacun voudrait pour lui, mais il faut de toute façon avancer. Et sur le bilan écologique,
alors là,
je vais être très claire. En 2014, il y avait au niveau de la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire sur une zone qui concerne environ 7 millions d'habitants, il y avait 4 millions de personnes en 2014 qui étaient confrontées à un air d'une qualité qui était une qualité dépassant les limites fixées notamment par l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, 4 ans après, avec des mesures qui sont pour certaines des mesures de restriction de circulation, voire d'interdiction de véhicules polluants, et pour d'autres mesures, l'ouverture à d'autres modes de déplacement, la voiture en autopartage, etc., nous avons 1 300 000 personnes. On est passé de 4 millions de personnes concernées par un air qui était très pollué, c'est-à-dire vraiment très toxique, et sur lesquels même les normes internationales nous disaient qu'on dépassait les limites, à 1 300 000. C'est-à-dire qu'on a divisé par 3.
Mais est-ce qu'on peut dire, Anne Hidalgo, pardon, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire désormais, parce que il y a beaucoup de batailles autour de ces chiffres-là, oui, les chiffres disent que depuis que les voies sur berge ont été fermées, puisque même les gens qui n'habitent pas Paris l'ont bien constaté, la pollution va mieux, et elle ne s'est pas reportée sur l'autre rive.
Mais évidemment, parce que la pollution, d'abord, elle concerne bien sûr pas que Paris, et quand je parle des effets sur la santé, de l'autre côté du périphérique, il y a les mêmes effets sur la santé, donc, et d'ailleurs, beaucoup d'habitants aussi, et de maires de l'autre côté du périphérique, sont engagés comme moi dans cette bataille pour la qualité de l'air, parce que ils ont le souci de la santé des habitants de leur commune. Donc oui, depuis 2014, que nous avons mis en place un certain nombre de mesures, il y a les voies sur berge, parce que c'est sûr que quand vous fermez une autoroute en plein cœur de ville, même si ce n'est que 3,3 km, et que vous l'ouvrez aux piétons, aux promenades, etc., ça a un impact très fort. Mais vous avez aussi des pistes cyclables, vous avez aussi d'autres modes de déplacement doux et non polluants qui sont aujourd'hui proposés.
Pas demander à notre ami Olivier d'aller de Sainte-Geneviève-des-Bois jusqu'à Paris en piste cyclable quand même.
Non, mais il n'est peut-être pas obligé de passer par le cœur de l'agglomération. D'ailleurs, la plupart des gens qui font ce type de trajet, c'est-à-dire vraiment le sud de la région pour aller vers le nord de la région, passent soit dans un contournement, la 86 ou d'autres, soit directement par Châtelet. Je rappelle que Châtelet est à 14 minutes en RER, du Bourget. Hein, c'est quelque chose sur lequel j'échange très souvent d'ailleurs avec Yannick Hope, le maire du Bourget, qui vient souvent à Paris, accompagné d'ailleurs, et lui-même, il soutient la politique que je mène en faveur de la qualité de l'air.
Yael Gauss pour une question, et bonsoir à vous Yael.
Bonsoir Madame Hidalgo.
Bonsoir.
Dans le livre que vous publiez, qui s'appelle Respirer, on voit clairement que la voiture est quand même l'ennemi. Vous dites que Paris est devenu une prison, quadrillée par le périphérique, entourée du périphérique. La voiture, il faut penser à autre chose.
Moi, j'ai pas d'ennemi. J'ai absolument pas d'ennemi, et surtout pas les voitures.
Et la question qui se pose maintenant, vous voulez élargir les alternatives. Parmi les alternatives, il y a le transport en commun, bien sûr, dont vous portez l'idée qu'il pourrait être totalement gratuit si vous briguiez un nouveau mandat à la tête de la ville de Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous engagez là-dessus? Gratuité totale et transport en commun? Sur le modèle de Dunkerque qui existe en France.
D'abord, je travaille pas tout à fait comme ça. Je n'ai pas d'ennemi et la voiture n'est pas mon ennemi. Ce qui est mon ennemi, c'est la pollution qui tue.
D'accord, mais les transports en commun gratuits.
Attendez, il faut traiter les causes de la pollution en offrant d'autres possibilités et notamment, bien sûr, améliorer l'offre de transport. J'ai demandé à 3 de mes adjoints de porter une étude qu'ils sont en train de réaliser sur est-ce que la gratuité des transports peut aider peut être un instrument pour lutter contre la pollution parce que plus incitative pour chacun.
Ça, on savait. Mais est-ce que vous vous êtes fait une opinion?
Non, je ne travaille pas comme ça. J'ai demandé à mes 3 adjoints de
faire ce travail. Dont Bruno Julliard qui est parti.
Non, pas du tout. Oui. J'ai demandé à Emmanuel Grégoire, à Jean-Louis Missica, mon premier adjoint, à Jean-Louis Missica et à Christophe Najowski, qui est mon adjoint chargé des déplacements. Je leur ai demandé de porter cette étude. Ils me remettront les résultats à la fin de l'année. Ils font travailler d'ailleurs un certain nombre d'équipes et d'équipes universitaires. Nous allons nous rendre ensemble avec mes adjoints à Dunkerque, parce que le maire de Dunkerque a mis en place un système de gratuité des transports. Donc on va aller voir aussi comment ça se passe.
Alors il y a 200 000 habitants à Dunkerque.
Absolument. Et la transposition, évidemment qu'il y a la question du coût et la question de...
2,8 milliards, c'est ce qui a été chiffré. En gros, la part que nous payons, nous, avec notre ticket de métro, c'est 2,8 milliards des transports
mais
en commun à Paris.
Je ne vais pas conclure sur une question que j'ai ouverte et en demandant à ce qu'elle soit renseignée objectivement et qu'on voit si la gratuité peut être un moyen de permettre de lutter contre la pollution de l'air. Donc ça, vous aurez la réponse après le débat. Voilà, moi j'aime bien travailler sérieusement et je pense que tous les responsables politiques, notamment les maires, sont des gens sérieux. On ne part pas sur des coups de tête. Si j'avais voulu porter la question de la gratuité dans la campagne des municipales, je l'aurais annoncé. Mais ce que je porte, c'est une étude sur est-ce que la gratuité peut être un bon outil pour lutter contre la pollution. De l'air.
Je ne veux pas qu'on oublie le standard. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Bonsoir.
Stéphane.
Bonsoir France Inter, bonsoir Madame Hidalgo. Je vous appelle parce que moi je suis parisien depuis toujours, je dirais, et depuis ces dernières années, j'ai vu un développement des deux roues motorisées absolument exceptionnel à Paris. Vous communiquez beaucoup sur la limitation de la place de la voiture en ville, mais on oublie juste, on a l'impression que c'est un contournement pour éviter de parler de la place de la moto en ville. Et à Paris, si vous comparez à d'autres grandes villes européennes, Paris est envahi de roues motorisées sans aucune limite. C'est-à-dire que maintenant, les pistes cyclables, les voies de bus, les voies piétonnes sont utilisées par les motos. Dès qu'il y a un embouteillage, un sens interdit, les motos prennent les trottoirs. Moi, j'ai des enfants en bas âge. Je vous garantis qu'une fois sur deux, quand je fais 100 mètres sur un trottoir, j'ai une moto qui arrive face à moi et je dois évidemment me pousser pour la laisser passer. Les motos stationnent sur les trottoirs, donc à partir du moment où elles stationnent sur les trottoirs, et ben si elles ont repéré une place à 100 mètres, elles font 100 mètres sur le trottoir pour aller se garer. Et puis il y a des trottoirs à Paris, je prends l'exemple de la rue de la Boétie par exemple, où la moitié de la largeur du trottoir est prise par des motos qui stationnent, donc les piétons, s'ils veulent pouvoir se croiser, sont obligés de marcher à la queue leu-leu.
Stéphane, merci.
Voilà, donc à partir de quel moment on décide de faire juste appliquer le code de la route à Paris en ce qui concerne les deux roues?
Merci de votre question, Stéphane. Pour en rajouter une, Anne Hidalgo, sur la réponse de Stéphane. Effectivement, il faut une alternative à la voiture. Donc, beaucoup de gens ont choisi les deux roues. Ça manque de stationnement dans Paris ou pas ?
D'abord, Stéphane a entièrement raison. Vous avez totalement raison. Le diagnostic que vous posez est le même que celui que je pose. Il y a aujourd'hui des incivilités trop nombreuses, trop graves, trop dangereuses, qui sont commises effectivement pour beaucoup par des deux roues motorisées, et ça n'est pas possible. On ne va pas pouvoir continuer comme ça. D'ailleurs,
ça veut dire qu'il faut plus de sévérité, c'est ce que vous dites, et des amendes qui sont plus fortes.
Je pense que à Paris, la sécurité routière n'est pas suffisamment bien assurée. C'est une question que j'évoque souvent avec le préfet de police sur comment on peut faire. On pense qu'il y a des moyens, d'ailleurs, de vidéo-verbalisation. Et nous allons, le 1er octobre prochain, ça rejoint la question de Stéphane, inaugurer d'ailleurs une salle dans laquelle nous avons des agents qui vont être chargés de la vidéo-verbalisation, notamment de tous ces comportements, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de motos qui viennent sur les pistes cyclables, qui d'ailleurs, en plus, qui engueulent les cyclistes quand elles sont sur les pistes cyclables. Donc ça n'est plus possible. Donc on met des moyens de verbalisation. Je pense qu'il y a un travail à faire. On a des rencontres qui sont pas toujours très simples, mais des rencontres qu'on doit avoir avec les usagers des motos. On travaille aussi avec, vous savez, on a deux opérateurs qui sont arrivés dans Paris, qui proposent des scooters électriques
en libre service et en partage.
On travaille avec les opérateurs de ces deux services-là pour que justement il y ait vraiment une conscience de la nécessité d'appliquer les règles de la sécurité routière. Donc, mais ce que dit Stéphane est totalement juste, parce que c'est vrai que ce qui s'est passé, mais c'est un phénomène qu'on a observé dès 2001, dès qu'on a commencé justement à mettre en place une politique de mobilité différente du tout voiture avec Bertrand Delanoë, on a constaté un report vers les deux roues motorisées. Aujourd'hui, il faut que chacun puisse avoir sa place, et mon sujet n'est pas de dire on veut plus de deux roues motorisées, mais il faut que chacun respecte les règles
mais
du jeu.
Faut aussi...
Il y a trop d'incivilité et c'est trop dangereux pour les piétons, les cyclistes et tous les usagers de la ville qui sont, parce que les plus nombreux sont quand même ceux qui marchent à pied ou qui utilisent les transports en commun.
Et ça dit, les deux roues ont le même problème que les voitures au niveau du parking et du garage.
Oui.
si on multiplie, alors je parle des deux roues motorisées, mais aussi des vélos, au fond, oui. Si on multiplie les deux roues, qu'ils soient motorisés ou pas, à un moment, il faut pouvoir les garer.
D'abord, vous avez là aussi raison, et c'est vrai qu'il manquait de places de stationnement pour les deux roues motorisées et pour les vélos. Donc, pour les deux roues motorisées, on a augmenté, et ça vous pouvez le constater à Paris, le nombre de places, et elles sont gratuites. Elles sont gratuites, mmh. C'est un stationnement gratuit. Ce qui n'empêche pas d'avoir des comportements inciviques avec des motos garées sur les trottoirs, et ça, c'est pas possible. Et nous avons augmenté aussi, et on a un plan qui est en train de se déployer avec mon adjoint Christophe Najowski, pour justement permettre aux Parisiens de garer leurs vélos dans des lieux sécurisés. Parce que souvent, les cages d'escalier sont petites, les appartements sont petits, on a besoin...
Des vélos dans Paris est énorme.
Et il y a beaucoup d'incivilité, ça c'est clair. Donc nous sommes en train de proposer, on va déployer ce plan, il sera visible assez vite, mais on a déjà mis pas mal de bornettes pour permettre aux vélos d'être accrochés.
Valérie, bonsoir.
Oui, bonsoir mesdames.
Soyez la bienvenue, Valérie.
Bonsoir.
J'avais envie d'apporter mon soutien à Anne Hidalgo parce que je trouve que
Merci. Elle
a pris des décisions courageuses. Je suis sûre qu'à l'avenir, les Parisiens et le reste des Français lui en seront reconnaissants. Et voilà, je trouve que c'est courageux. C'est vrai que c'est le bazar dans Paris. C'est vrai que c'est compliqué pour les Parisiens et les provinciaux qui viennent en balade à Paris. Mais je pense que c'est des décisions importantes qu'il fallait prendre, que vous avez eu le courage de prendre, Madame Hidalgo. Et
merci.
Pour ça, je tenais à vous saluer.
Merci Valérie, ça me touche et je pense que ces mesures, nous devons les prendre et elles sont prises partout dans toutes les villes du monde. Vous savez, j'ai l'occasion d'échanger beaucoup avec mes collègues, que ce soit à San Francisco, à Los Angeles, à Copenhague, à Amsterdam. Copenhague et Amsterdam, deux villes qui sont très en avance sur nous. Vous savez, Amsterdam, c'est dans les années 70, à Amsterdam, les citoyens se révoltent parce qu'il y a trop d'accidents de voitures, d'ailleurs des enfants impliqués dans des accidents très graves, et les citoyens disent « ça suffit, nous voulons des modes de déplacement beaucoup plus doux ».
17 millions d'habitants, 23 millions de vélos aux Pays-Bas, c'est un chiffre dont on a parlé il y a un instant. Une chose, pardon Yael, Valérie, dites-nous juste où vous habitez quand même.
Alors moi j'habite dans l'Isère, dans une petite commune qui s'appelle Beaurepaire, mais bon j'ai quand même l'occasion de me déplacer à Paris. Et malgré tout, voilà, c'est tout ça, une décision courageuse.
Merci
Valérie. J'ai juste une question avant de passer la parole à Yael Go, justement en fonction de ce que disait Valérie. Dans votre livre Respirer, je lis « Parfois je me sens seule lorsque je lis le déferlement de violences gratuites et anonymes qui accompagnent certains de mes tweets. Ça pourrait me faire douter, c'est à ça que je pense en lisant en écoutant le témoignage de Valérie. Vous avez l'impression qu'il y a du Hidalgo bashing ou pas en ce moment ?
Oh, c'est pas... Franchement, vous savez, je suis maire de Paris. Être maire de Paris, c'est accepter aussi le débat. Alors bien sûr, le débat public prend parfois des tournures qui sont des mises en cause de personnes, ce qui n'est pas très intéressant, parce que si on est à un endroit comme la mairie de Paris, c'est pour agir et pour porter des politiques. J'admets bien sûr qu'il y ait des personnes qui aient des opinions différentes, et j'adore d'ailleurs le débat public quand il est respectueux des personnes et quand peuvent s'opposer des points de vue différents. Moi, le parti pris qui est le mien et celui de mon équipe et sur lequel nous avons été élus en 2014, parce qu'on a déjà été élus quand même sur cette problématique de la lutte contre la pollution à Paris, c'est un parti pris qui est de permettre aux Parisiens de mieux vivre dans cette ville, d'avoir une qualité de vie plus grande. Et c'est vrai que c'est un changement de modèle. Moi, je pense souvent à Nicolas Hulot et je suis toujours, bien sûr, en contact avec lui. On a vécu, on vit la même chose, toutes celles et ceux qui essayent de faire bouger, d'accélérer un changement de modèle qu'il nous faut absolument faire, parce que on ne pourra pas continuer à se mettre en danger. Ce qui nous met en danger aujourd'hui, c'est la pollution. Elle tue pas demain, elle tue aujourd'hui,
ce
déjà,
ce sentiment de solitude dont parlait Fabienne et que vous évoquez dans le livre, Nicolas Hulot l'a clairement verbalisé ici sur France Inter un matin en disant « Quand je me retourne, je vois pas qui j'ai derrière. Il y a des lobbies en face. Est-ce que vous continuez à vous parler? De quoi vous parle-t-il? Vous continuez le combat. Est-ce qu'il vous donne des conseils? Lesquels ?»
Oui, bien sûr, ça fait longtemps qu'on se parle et qu'on s'épaule et qu'il m'a toujours apporté son soutien et que je lui ai toujours apporté mon soutien. Il y a des lobbies très, très violents, très puissants. Vous parliez de, je parlais de déferlement de tweets. Bon nombre de ces tweets, d'ailleurs, ne sont même pas des vrais comptes. Hein. Mm-hmm. C'est des choses totalement
fabriquées, des robots.
Fabriquées. Donc, des il bots. Faut aussi, il faut aussi regarder les choses telles qu'elles sont. Et c'est très difficile. Vous voyez, par exemple, sur des sujets comme le glyphosate, sur le diesel, quand même des lobbies très puissants à l'œuvre qui essayent de faire douter ou reculer. Nicolas Hulot a eu une voix et a toujours une voix très très forte. Il a vraiment permis à
mais
une
nous,
grande partie...
Mais nous on l'entend plus. Qu'est-ce qu'il vous a dit par exemple ce matin?
D'abord, Nicolas Hulot continue à être quelqu'un, une grande conscience. Voilà, une grande conscience, un grand humaniste, un écologiste qui porte ce sujet avec aussi toutes ses dimensions, la dimension économique, la dimension humaine, la dimension sociale.
Et qui pourrait vous aider pour la suite peut-être?
Et Nicolas Hulot est quelqu'un qui, bien sûr, veut sûrement continuer et doit continuer à peser sur ces sujets. Les questions qu'on peut se poser et qu'on se pose quand on se parle, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vraiment gagner cette bataille, aller sur ce changement de modèle, faire en sorte que on est tous comme ça d'abord, vous, moi aussi, hein, on a dans nos têtes des injonctions contradictoires. On se dit là, il faudrait que je fasse un geste pour l'environnement, et puis bah, je suis fatiguée et je vais prendre ma voiture, et puis tant pis, ça se verra pas, ou je vais pas trier. Bon, tout le monde est comme ça. On est tous avec ces contradictions, et je pense que il faut qu'on arrive à sortir de ces contradictions, qu'on puisse montrer qu'il y a des solutions.
Mais pardon, mais très très rater, mais Nicolas Hulot pourrait-il jouer un rôle à vos côtés dans la campagne qui va arriver?
Ça, je ne vais pas parler en son nom, sûrement pas, je le respecte beaucoup trop, mais je pense qu'il va continuer à jouer un rôle sur le climat, sur ce changement de modèle, et là où il y a de la complémentarité entre ce qu'il fait et ce que font des maires, hein, pas que moi à Paris, c'est que nous, les maires, on agit sur quelque chose de très concret, c'est la vie quotidienne. On a un rapport très direct avec les citoyens, avec les habitants. La semaine dernière, j'ai réuni 2000 personnes qui sont venues à l'Hôtel de Ville de Paris, des volontaires pour le climat. Des volontaires pour le climat, qui sont venus en disant bah, « nous, on veut s'engager. On veut s'engager pour réduire nos déchets. On veut s'engager pour réduire la pollution. » Ça, c'est, je crois, quelque chose qu'on peut faire et l'amplifier.
Philippe. Philippe nous appelle au 01 45 24 7000. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir madame. Merci de prendre ma question. Elle est assez simple. J'utilise une voiture hybride rechargeable. Évidemment, dans Paris, et mon constat est qu'il est extrêmement difficile d'accéder à une prise afin de pouvoir effectuer le rechargement et donc là, de pouvoir rouler le plus longtemps possible en mode électrique. Aujourd'hui, avec la disparition d'Autolib, qui permettait d'y avoir accès, mais dans des conditions tarifaires épouvantables, d'une cherté absolue. Il ne reste plus maintenant que les prises sous la marque Sodestel et labellisées Mairie de Paris, mais qui reprennent exactement la même tarification. Elles sont rares, souvent occupées par des véhicules qui ne sont pas rechargeables et qui utilisent ces espaces pour se garer, et le prix de recharge est exorbitant. Une voiture électrique ou hybride demande à peu près 2 heures à 3 heures de chargement. C'est impossible à supporter sur un plan financier. Donc j'aimerais savoir quels sont les projets et quelles décisions la mairie de Paris va-t-elle prendre très concrètement pour permettre de continuer à donner envie d'acheter ces véhicules qui sont une partie de la solution de la moindre pollution parisienne.
Merci Philippe, merci de cette question. Allez-y, Aline Delgaux.
Merci beaucoup Philippe. C'est d'abord là aussi, c'est une question qui est totalement concrète et qui est réelle. Oui, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui environ 400 points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides, que ça n'est pas forcément suffisant, que la question des autolibes et de la mutation d'autolibes pose la question du service, et on va avoir cette semaine, dès la fin de la semaine, et avec le mondial de l'auto qui démarre la semaine prochaine, Renault d'abord et puis les autres constructeurs qui viennent avec une offre de voitures électriques en autopartage, et nous sommes en train de travailler pour que les places de stationnement qui sont, je parle des places et pas des bornes, hein, mais les places de stationnement puissent bien sûr être des places dédiées à ces véhicules. D'ailleurs, je précise que à Paris, le stationnement est gratuit pour les voitures électriques, toutes les voitures électriques, hein, qu'elles soient en autopartage ou pas, et ça c'est une mesure que j'ai prise il y a déjà plusieurs années. Le deuxième sujet, c'est les bornes, ces fameuses bornes électriques. Aujourd'hui, la réflexion qui est la nôtre, c'est d'abord de mettre à disposition des Parisiens plusieurs centaines de ces bornes électriques pour qu'ils puissent recharger leur véhicule hybride ou électrique à un tarif qui soit un tarif modique. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait une tarification qui soit quand même incitative. En tous les cas, moi, je suis pour on aille dans ce sens-là. On a fait d'ailleurs l'analyse avec mes équipes, l'administration de la ville. Et je pense que d'ici la fin de cette année, 2018, on va pouvoir offrir aux Parisiens la possibilité d'utiliser plusieurs centaines de ces emplacements autolib et des bornes électriques pour recharger leur véhicule. Ensuite, on a une réflexion qui nous vient d'ailleurs de la crise qu'on a connue et sur Vélib et sur Autolib, où en gros, nous pensons qu'il faut distinguer la gestion d'un service de mobilité partagée. Ça, c'est quelque chose qui doit évoluer parce que tous les 3 ans, la technologie évolue et qu'il ne faut pas s'enfermer dans des contrats trop longs avec ces gestionnaires. Et puis, à côté de ça, il y a un autre sujet qui est la gestion des infrastructures et des bornes électriques et de l'alimentation en énergie à travers ces bornes électriques. Et là, on pense que c'est plutôt, au contraire, sur du temps plus long qu'on doit organiser la gestion de ces infrastructures et de ces bornes électriques. Mais dans l'immédiat, vraiment dans l'immédiat, et ça va tout à fait dans le sens de la question de Philippe, on va mettre à disposition d'ici la fin de l'année plusieurs centaines de bornes à un prix, parce que le prix c'est important, à un prix là pour le coup défiant toute concurrence.
Laurent, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y Laurent.
Bonsoir Madame le maire, bonsoir François Pater. Nous sommes des résidents du 18e arrondissement, donc à Paris, à la porte de la chapelle.
Oui.
Et vous savez que nous vivons avec beaucoup de personnes dans un grand dénuement, dans une grande misère, qui dorment sous des tentes, etc. Même si je sais qu'il y a eu quelques efforts fournis depuis quelques semaines. Mais l'autre jour, par exemple, je marchais, j'ai croisé 10 rats traversant la route. Il y a énormément de misère et je trouve que les pouvoirs publics ont oublié cette partie de Paris et que c'est à nous, résidents, en fait, de prendre en charge cette population qui est vraiment malheureuse et qui est très violente. Mmh. Voilà, merci.
Bien sûr. C'est un quartier que je connais bien, hein, Laurent, et dans lequel je vais souvent, et je n'accepte pas les conditions dans lesquelles les habitants sont aujourd'hui finalement contraints de vivre. Il y a plusieurs sujets de compétences très différentes. Il y a un sujet qui est celui des réfugiés qui arrivent à Paris et notamment rentrent par la porte de la Chapelle. C'est souvent le point d'entrée. D'ailleurs, on voit dans les parcours de ces réfugiés, ils ont parfois un tout petit papier dans lequel il est marqué la Chapelle, parce que depuis leur départ d'Afrique subsaharienne ou d'ailleurs, on leur dit c'est là qu'il faut aller. Et donc il y a un sujet qui est l'accueil de ces personnes pour lequel je me mobilise, qui est de la compétence de l'État, mais je ne suis pas là pour dire je ne m'en occupe pas. Hein. Moi, évidemment, j'ai toujours proposé à l'État de contribuer à cet hébergement.
Justement, parenthèse sur l'Aquarius, dont on sait aujourd'hui que c'est extrêmement difficile pour lui de travailler. Il n'a plus de pavillon. Médecins sans frontières demande à ce qu'un État d'Europe, peut-être nous, la France, lui donne un pavillon.
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous dites-vous, Anne Hidalgo ?
Moi, je soutiens l'Aquarius depuis toujours. D'ailleurs, nous sommes une collectivité, je crois la seule, qui a versé et verse une subvention à l'Aquarius. Bien sûr qu'il faut être à la hauteur.
La France devrait donner son pavillon ?
Mais bien sûr, évidemment. La France devrait donner son pavillon et la France devrait remercier l'Aquarius. Mais je reviens sur la question de votre auditeur. Sur l'accueil, je me bats pour qu'on ouvre des places supplémentaires. Il y a trop de personnes à la rue. D'ailleurs, c'est un phénomène. J'étais il y a 2 semaines à un sommet sur le climat à San Francisco. C'est un phénomène qui est puissance 10 à San Francisco. Hein. C'est pas les mêmes réfugiés, c'est pas les mêmes causes, mais le problème des personnes à la rue à Los Angeles également, à New York également. Donc c'est un phénomène qui n'est pas concentré sur Paris. C'est vraiment un phénomène qui aujourd'hui concerne toutes les grandes villes monde, comme j'ai l'habitude de dire. Des grandes villes monde comme Paris, où il y a de la création de richesses, il y a toutes les populations très créatives, les gens qui vont bien, et ben forcément il y a de la lumière. Et forcément ceux qui vont moins bien viennent aussi chercher une part de cette solidarité. Donc il faut là-dessus, et je travaille avec Jacques Mézard beaucoup, le ministre du Logement. On a un plan pour faire en sorte qu'il y ait encore plus de places d'hébergement qui soient proposées. J'y reviendrai dans les semaines qui viennent. Mais ça, c'est un sujet. Mais ce qui s'est passé dans le 18e arrondissement, qui est vraiment un arrondissement extraordinaire, avec beaucoup de contrastes, c'est que l'arrivée massive de réfugiés à la porte de la Chapelle a effectivement créé une situation qui nous a obligés dans un premier temps à mettre plus de services, les services de nettoyage, toutes les équipes de mairie qui viennent essayer traiter cet espace public sur lequel on vit. Et du coup, on s'est trouvé confronté quand même à un problème qui retombait sur l'ensemble du 18e arrondissement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que avec mon équipe, avec le maire du 18e arrondissement, Éric Lejoindre, nous avons mis des moyens supplémentaires. J'ai mis des équipes aussi, par exemple en matière de nettoyage, des équipes de propreté qui sont des équipes qui viennent spécifiquement en renfort sur ces quartiers qui sont des quartiers qui souffrent. Mais en même temps, peut-être que vous l'aurez vu aussi, c'est dans ce quartier qu'on a décidé d'investir dans l'avenir. C'est là que vient la nouvelle université, le campus Condorcet, c'est à la porte de la Chapelle et c'est vraiment un engagement que j'avais pris de libérer le terrain. Vous savez qu'il y a eu un centre de réfugiés qui nous a rendu beaucoup, beaucoup de services et aussi aux réfugiés. Mais on va faire dans ce quartier-là, cette université, tout le monde se retrousse les manches. Hein. C'est une situation très difficile. Mais vraiment, ce que je veux dire aux habitants de ce quartier, c'est que non, vous n'êtes pas abandonnés. La situation est très difficile, mais c'est aussi un quartier pour nous prioritaire. Tous les services de la ville sont mobilisés pour aider les habitants à vivre mieux ce quartier et la mutation de ce quartier.
Denise, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, bonsoir. Denise, allez-y.
Oui, bien écoutez, moi, d'abord je voudrais dire que je soutiens globalement la politique de Madame Hidalgo et de son équipe, plurielle.
Merci.
Par contre, j'ai un petit problème sur le stationnement. Et pour anecdote, quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui, je suis une personne handicapée. J'ai donc un macaron de stationnement handicapé. Je me suis garée dans le 14e sur une place handicapée. Et à ma grande surprise, quand je suis retournée chercher ma voiture, je suis tombée sur un employé d'une société privée qui est en train de me mettre ce qu'ils appellent maintenant un FPS, pardon.
Donc ça peut être une bonne nouvelle quand on a un FPS.
Voilà. Et quand j'ai posé la question, puisque j'étais stationnée sur une place handicapée avec mon carton handicapé et donc je ne voyais pas où était le problème,
bien sûr, oui.
La personne m'a répondu « Oh, mais vous savez, il y a tellement de fausses cartes handicapées qu'on met des amendes à tout le monde et en fait, après, à vous d'aller sur le site et de demander le remboursement. »
Non.
Alors, d'une part, je suis allée sur le site après et j'ai constaté que pour le rapport qui doit statuer dans le mois, il faut déjà payer son amende. Et ça, je trouve ça particulièrement désagréable.
Bien sûr, bien sûr.
Et bon, je trouve que cette réponse était particulièrement scandaleuse.
Merci Denise.
Voilà. Alors là-dessus, d'abord, c'est vrai qu'il y a eu des trafics de cartes, de fausses cartes de personnes handicapées. Un trafic qu'on a vu et sur lequel d'ailleurs il y a des procédures, procédures judiciaires en cours. On a saisi bien sûr le parquet de Paris sur ce sujet-là. Et donc c'est vrai qu'il y a eu ça. Mais pour autant, ça n'explique pas le fait qu'il faut quand même du discernement. Si vous présentez votre macaron, vous n'avez pas à être sanctionné. Je pense que là-dessus vraiment, voilà, je vais prendre si vous pouvez laisser votre mail qu'on puisse traiter ce sujet, parce que ce n'est pas normal. La réponse qui vous a été faite n'est en effet pas normale.
Alors pour poursuivre sur la question de Denise et sur l'accessibilité, c'était la journée nationale hier, donc l'une des choses, à chaque fois, c'est la même chose que disent les personnes en mobilité réduite, c'est station de métro, il y en a une, c'est aussi simple que ça, accès dans Paris, des escaliers dans tous les sens, des ascenseurs qui sont le plus souvent en panne, et on a l'impression que ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans qu'ils disent la même chose.
Alors, ce que disent aussi les associations, c'est qu'il y a eu des progrès, par exemple, dans l'accessibilité des équipements publics, des écoles, voilà.
Mais il faut pouvoir y aller.
Mais il faut pouvoir y aller, et là-dessus, je suis entièrement d'accord avec eux, et tout à fait de leur côté. On a un métro qui est un métro ancien, donc c'est vrai que lorsqu'il a été conçu, la préoccupation de l'accessibilité n'existait absolument pas. Les nouvelles lignes le sont. Les tramways, les bus sont accessibles. Mais moi, je souhaite vraiment, et je l'ai dit, et mon adjoint Nicolas Norman, qui suit avec beaucoup, beaucoup de force ces sujets-là, je souhaite que nous utilisions les Jeux Olympiques et Paralympiques, parce que c'est Olympique et Paralympique de 2024, pour faire vraiment un saut qualitatif. Je travaille beaucoup avec Emmanuelle Hassmann, qui elle porte justement toute la dimension paralympique dans cette organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, et évidemment qu'il nous faut faire un saut qualitatif. Alors bien sûr, ça coûte de l'argent. Bon, ça m'a pas échappé, mais je pense que c'est quand même aux collectivités publiques, à l'État aussi, et à la région dont c'est la compétence, de se mobiliser pour que les Jeux de 2024 soient vraiment des Jeux accessibles. On a un enjeu majeur, en tous les cas.
2024, vous serez où, Anne Hidalgo ?
Bon, ça, on verra. Ça, c'est pas moi qui le décide. Hein. Vous savez, la beauté de la démocratie, c'est que ce sont les citoyens qui décident de où vous êtes.
Vous serez pas en campagne en Espagne,
je serai...
Vous serez pas en campagne en Espagne.
Non, je serai toujours très parisienne. Ça, c'est clair.
Juste un mot d'ailleurs, Manuel Valls, qu'est-ce que vous pensez de sa démarche ? C'est courageux ou il déserte son territoire d'origine ?
Je peux comprendre ses racines, je peux comprendre l'attrait voilà du pays où vous êtes né. Moi-même, j'ai la double nationalité. Je suis née dans le sud de l'Espagne, à Cadix. Je ne ferai pas le même choix du tout. Je ne me verrai d'ailleurs pas du tout faire ce type de choix. Je pense que c'est un choix très personnel. Je n'ai pas à le commenter.
À saluer ou pas ? Parce que la République En Marche le salue en disant « voilà un vrai Européen ».
Oui,
et vous ?
Bien sûr qu'il est, c'est un vrai Européen, comme je suis aussi une vraie Européenne, comme vous êtes sans doute aussi un vrai Européen. Je pense qu'il faut que chacun fasse aussi ce pourquoi il se sent en situation d'apporter quelque chose.
Vous avez du mal à dire quelque chose sur Manuel Valls ?
Non, parce que avec Manuel Valls, on se parle souvent. On s'est toujours d'ailleurs échangé beaucoup de messages en espagnol depuis toujours.
Oui,
lorsqu'il était Premier ministre, ça m'arrivait quand j'étais dans son bureau et que parfois on n'était pas d'accord, parce que ça nous arrivait quand même assez souvent de ne pas être d'accord sur un certain nombre de sujets de fond. Et on démarrait toujours nos conversations en disant, lui il me disait « toi l'Andalouse » et je lui disais « toi le Catalan ». Donc, mais moi je le respecte beaucoup, on s'est toujours vraiment parler. Donc, je ne vais pas commenter un choix qui, pour moi, est d'abord un choix personnel avant d'être un choix politique.
Allez, Anne Hidalgo, merci beaucoup. Je vais vous laisser sur deux mails sur franceinter.fr qui résument assez bien la situation du jour. Je souhaite féliciter et remercier la maire de Paris. Elle réforme peut-être avec une certaine violence. Elle prend des mesures qui sont peut-être un peu autoritaires, mais il le faut. Madame Hidalgo, nous dit ce deuxième auditeur, allez donc habiter un ou deux mois en grande banlieue avec obligation d'arriver au boulot à l'heure et avec un SMIC et vous verrez alors que les problématiques de transport sont bien différentes. Voilà, tiens, je rappelle que votre livre pour les Parisiens s'appelle Respirer, Anne Hidalgo, tout petit livre, donc ça se lit finalement.
Et les droits iront à la Fondation du Souffle.
Et ben voilà, c'est bien de le dire. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Laure Adler, dans un instant sur France Inter, je voudrais remercier aussi très chaleureusement nos deux standardistes, Stéphane Duguay et Kiera Roussavoyenne, puisqu'ils vont nous quitter ce soir. On a beaucoup aimé travailler avec eux. Portez-vous bien, il est 20h.